BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Boulot, le mag. Notre premier entretien est avec le DRH d'un chantier naval. Il s'agit de Franck Bonneau qui s'occupe des ressources humaines chez Dufour Yacht. Je vous emmène du côté de La Rochelle pour parler de métiers pénuriques, de métiers d'avenir et de carnets de commandes plutôt pleins. Le sujet sur la table aujourd'hui, c'est comment les politiques RSE d'une entreprise ou la politique RSE d'une entreprise est scrutée tant par les candidats que par les investisseurs, les clients et les fournisseurs. Avec deux personnes, on débat de ce sujet, avec Enguerrand de Crémier, directeur chez Kroll, et puis Caroline Renoux, qui est la fondatrice d'un cabinet de chasse de tête qui s'appelle Burdeo. Pour finir cette émission, on reviendra sur le phénomène du burn-out. 2,5 millions de Français sont concernés, 85 000 DRH sont concernés également par ce sujet, puisqu'ils doivent évidemment prendre le pouls du moral et du mental des travailleurs. Et ce sujet du burn-out, eh bien, il faut en parler. On libère la parole avec Imad Wakidi, le cofondateur d'Olivia. C'est le programme d'Happy Boulot le Mag. À tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'entretien DRH.
L'entretien DRH de la semaine, il se fait avec le DRH d'un chantier naval du côté de La Rochelle. C'est Franck Bonneau qui est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour Lorraine, merci.
Vous êtes directeur des ressources humaines de Dufour Yacht. Bah, vous me direz merci après l'entretien. Non, je plaisante. C'est assez original de commencer avec vous. Vous allez nous porter le métier des DRH dans un endroit, dans une profession, dans un secteur où on ne met pas souvent le nez et les yeux. C'est pour ça qu'on était curieux avec l'équipe de vous lancer cette invitation pour que vous nous parliez évidemment de votre fonction de DRH dans le contexte que tous les DRH connaissent, ce début d'année, les négociations annuelles, etc. Mais aussi les difficultés de recrutement que vous rencontrez peut-être sur des métiers plus ou moins pénuriques. Et puis enfin, de parler d'un secteur, la construction de bateaux, dont la France peut être assez fière, je crois. Voilà l'idée de cet entretien. Alors, cher Franck, si vous deviez nous résumer votre job en deux, trois mots, qu'est-ce que vous nous diriez ? À quoi ressemble votre quotidien du côté de La Rochelle ?
Déjà, en général, c'est très ensoleillé, donc c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est un poste de DRH très opérationnel. C'est 90% des effectifs sont des opérateurs, donc on est vraiment dans des métiers dans l'usine. Voilà, c'est de la construction navale avec des opérateurs techniques. Et c'est un métier où les relations sociales sont primordiales.
À La Rochelle ou ailleurs, d'ailleurs, dans nos frontières, dans nos façades maritimes. Alors, un mot sur Dufour Yacht, 1964, date de création, basé à La Rochelle, environ 600 personnes, en fonction des mois de l'année, peut-être, en fonction des coups de jus, et puis surtout 40 métiers. Oui. Alors, listez-nous quelques-uns des métiers qu'on connaît tous, et puis, à côté de ça, des métiers qu'on connaît moins sur un chantier naval.
Alors, faut comprendre déjà que Dufour, on pense le bateau, on le dessine, on le conçoit. Donc on a des métiers d'ingénieur, on a un bureau d'études, un bureau méthode, on a une direction commerciale, on a un service après-vente ou service client. Donc on a tous ces métiers. Et au-delà de ça, on a tous les métiers qui sont ce qu'on appelle les opérateurs. Donc on a des opérateurs techniques, donc ça peut aller du plombier au menuisier d'agencement. On a l'électricien, on a des opérateurs composites. Alors ça va peut-être pas parler à grand monde, mais pour construire des coques, il faut des divers métiers. On a ce qu'on appelle des stratifieurs pour créer des coques. On a des détoureurs. Et voilà, on a un ensemble de plein de petits métiers. On va dire, c'est de l'usine, mais de façon artisanale.
Artisanale, combien de corps de métier ?
Une vingtaine de corps de métier.
Alors, évidemment, on est en pleine mobilisation ou, soutien de la réforme des retraites, en fonction de quel bord on est. On parle beaucoup de l'emploi senior. Dans vos métiers, en préparant cette interview, on s'est rendu compte que vous aussi, vous étiez face à un sujet d'emploi et d'employabilité des seniors, avec des métiers qui ne trouvent pas forcément des jeunes, des profils très jeunes. Est-ce que, justement, vous organisez déjà la passation entre les artisans, les spécialistes qui sont sur le point de partir à la retraite et des plus jeunes? Est-ce que vous arrivez à recruter des plus jeunes et à assurer cette passation de compétences?
Alors, autant il est dur de recruter des plus jeunes parce qu'on est sur des métiers tendus, autant on travaille énormément justement sur les seniors, alors seniors plus. puisque c'est un enjeu même, c'est un enjeu économique pour l'entreprise, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont amenées à faire valoir leurs droits à la retraite dans les prochaines années. Et ce sont des compétences métiers, c'est un savoir-faire, c'est l'histoire de Dufour. On a la personne qui a la plus grande ancienneté dans l'entreprise à 44 ans chez Dufour.
C'est donc, qui il fait quoi ou elle fait quoi?
C'est une dame, d'ailleurs je vais la citer comme ça. C'est Madame Rambeau.
On la salue, Madame Rambeau.
Elle est donc à 44 ans chez Dufour.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle travaille sur ce qu'on appelle les grands modèles. Donc,
Quels sont les métiers les plus compliqués à staffer aujourd'hui? Quels sont les métiers les plus pénuriques chez vous, dans vos chantiers? Et puis plus généralement, si vous pouvez prendre la parole pour la construction navale de la façade ouest.
Alors, si vous avez des contacts, il nous faut des menuisiers, des électriciens, ce qu'on appelle les opérateurs techniques, électriciens et plombiers. Ce sont vraiment des corps de métiers qui ont souvent été désaffectés dans les formations initiales. Et on a vraiment une grosse pénurie et on a des personnes qui viennent de l'étranger pour...
Où ça, de l'étranger?
Souvent du Portugal.
Souvent du Portugal. Est-ce que vous sentez... est-ce que le dialogue avec les centres de formation, avec le monde éducatif est bon et vous êtes optimiste que dans les prochaines années, ces métiers seront moins pénuriques ou c'est structurellement et pour longtemps compliqué?
Pour longtemps compliqué, pour autant on a pris les devants avec le groupe Fontaine-Pajot dont Dufour dépend, on crée une école métier.
Fontaine-Pajot, premier constructeur nautique de Charente-Maritime.
Et du coup on crée une école métier puisque on ne peut pas rester être attentiste et du coup un facteur d'attractivité et aussi pour répondre à nos besoins, c'est de créer des écoles métiers sur justement les métiers qui sont en pénurie, comme tous les opérateurs techniques dont je vous ai parlé.
Vous l'avez dit, en plus des métiers que d'autres filières, d'autres secteurs cherchent aussi à recruter.
Oui.
Pourquoi se tourner vers la construction nautique en 2023 pour les plus jeunes qui nous écoutent ou peut-être ceux qui envisageraient une reconversion?
Je pense que déjà ça a du sens. On construit des voiliers, alors même si encore on a des sujets environnementaux par rapport aux produits qu'on utilise, mais on va dire
on voit des belles voiles carbone derrière vous pour ceux qui nous regardent sur les réseaux ou à la télé.
Non, voilà. J'ai avant tout c'est un beau produit qui répond sûrement peut-être à des attentes.
Parlez bien dans le micro.
Oui, pardon, excusez-moi. Non, voilà, c'est un beau produit. On est sur des mobilités douces, donc on essaye d'aller vraiment dans une vision sur le long terme. On s'est pas du tout engagé sans moteur, et c'est une politique de Fontaine-Pajot et de Dufour. Voilà, je pense que ça peut aussi donner un sens et ça peut attirer les jeunes. Et d'ailleurs, on a beaucoup de jeunes voileux qui viennent chez nous parce qu'ils sont amoureux de la voile et qui viennent travailler chez nous, même s'ils n'ont pas obligatoirement les compétences au début.
Voilà, transformer un hobby en un métier, c'est possible chez Dufour
Yacht. C'est totalement possible.
Merci beaucoup pour ce zoom dans votre métier, Franck Bonneau, DRH de Dufour Yacht, qui a des bons problèmes, hein, un carnet de commandes plein à 2 ans. Je pense que vous n'êtes pas la seule entreprise du secteur qui se porte bien, en tout cas qui a un gros carnet de commandes, mais c'est bien de le rappeler. Il y a du boulot et il y aura du boulot dans les prochains mois et les prochaines années dans ce secteur. On commençait à parler un petit peu d'écologie, un petit peu de sens. Restez avec nous, on va parler justement de comment la RSE pèse dans le choix des candidats de rejoindre une entreprise ou pas, mais pas que des candidats, vous allez voir. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Quelle est l'importance de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, du point de vue des candidats qui candidatent, qui postulent aux entreprises? Et est-ce que c'est important pour les autres parties prenantes des entreprises? C'est la question dont on va discuter dans les 10 prochaines minutes avec mes deux invités. D'abord, bonjour Caroline Renoux.
Bonjour.
Fondatrice de Birdeo et People for Impact, qui va porter la parole des candidats et puis des entreprises recruteuses. Et Enguerrand Crémier, bonjour.
Bonjour.
Managing Director chez Kroll. Avec vous, on va se mettre dans les chaussons du point de vue des investisseurs, par exemple, des financiers, mais aussi, pourquoi pas, des ONG ou des autres parties prenantes qui ont aussi voix au chapitre sur une politique RSE déployée par les entreprises dans lesquelles ils mettent des billes, dans lesquelles ils ou elles sont concernés. Alors d'abord, Caroline, je vais vous laisser nous donner un petit peu de contexte. En quoi une politique RSE d'une entreprise est un gage d'attractivité pour les candidats et les candidates en 2023?
Alors, ça dépend de la politique RSE, puisque globalement, la plupart des entreprises ont une politique d'entreprise RSE. Donc, la question, c'est de savoir à quel niveau elle se situe. Et en termes d'engagement et d'authenticité aussi, où se positionne l'entreprise.
Et pour vous, Enguerrand, du point de vue des autres parties prenantes. Pourquoi c'est, alors à défaut d'être un gage d'attractivité, un gage de crédibilité, une politique RSE qui tient debout et qui est solide ?
Bien, tout d'abord, c'est un levier qui est à disposition des sociétés, des entreprises, pour améliorer leur réputation, leur image, c'est extrêmement important. Alors vis-à-vis, bien sûr, Caroline venait de le mentionner, vis-à-vis des jeunes, des personnes qui cherchent du travail, mais aussi vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs, et puis vis-à-vis, plus globalement, de l'ensemble des personnes qui observent les entreprises au jour le jour, travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, il y a la réputation, la transparence, le fait de peut-être gérer les risques vis-à-vis notamment des talents. Caroline, j'imagine que les jeunes sont très à l'écoute des employeurs concernant les thématiques d'égalité, d'insertion, de diversité. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, j'imagine, pour eux. En tout cas, c'est ce que je peux observer.
Moi, sur les risques et sur les jeunes, je voudrais préciser deux choses. C'est que, effectivement, c'est important, une politique RSE pour les risques, de ne pas faire fuir les talents. Mais pour les risques tout court, parce que les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, et là je parle du point de vue employeur, le changement climatique, ça a déjà un impact, donc faire en sorte de le réduire pour continuer à pouvoir acheter et produire à manger, c'est de la gestion de risque. Et après, on parle beaucoup des jeunes qui s'intéressent à ces sujets, et c'est vrai, mais ce que je constate, c'est que les moins jeunes, les cadres expérimentés, c'est vraiment des sujets aussi qui les portent, et ils ont aussi beaucoup d'exigences et de plus en plus sur ces thématiques.
Caroline, précision, quand on dit les jeunes, comment vous nous bornez la génération dont vous parlez ?
Les jeunes, moi je dirais les jeunes diplômés, voilà, entre 20 et 25 ans. Moi, ce que je constate, c'est que des cadres expérimentés, donc on va dire à partir de 30, 35 ans jusqu'à ce qu'on appelle les seniors, donc après 50 ans, ont de plus en plus des exigences aussi très fortes sur ces thématiques.
Enguerrand, quels sont, selon vous, les différents aspects qui composent une politique RSE d'une entreprise aujourd'hui en 2023 ?
Alors, il y a plein d'aspects. Je ne sais pas s'il y a une règle, mais en tout cas, ce qui est à peu près certain, il y a le E d'environnement, l'empreinte écologique, l'usage des matériaux, des matières premières, l'empreinte carbone qu'on laisse. Bien sûr, il y a l'empreinte, il y a le S aussi, social, les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, l'égalité des chances. Il y a la gouvernance, la mixité dans les boards, toutes les thématiques aussi d'absentéisme, de formation des équipes, jeunes et moins jeunes.
Oui.
Et puis, bien sûr, il y a d'autres thématiques qui sont importantes, comme l'éthique, des chartes d'éthique qui sont extrêmement importantes pour les sociétés. Et bien sûr, les aspects économiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées par laisser une empreinte positive sur des tissus économiques, sur le développement de filières, on parlait de l'agroalimentaire, et sur laisser une empreinte positive, au-delà des rendements financiers, bien sûr, qui sont aussi attendus par les sociétés.
Caroline, lesquels des aspects que vient de lister Enguerrand sont les plus scrutés par les candidats que vous croisez dans votre profession ?
Alors, ce que les candidats vont chercher à savoir, ça va dépendre du type d'entreprise, et ils vont s'intéresser à ce qu'on appelle la matérialité, c'est-à-dire quel est vraiment l'impact de l'entreprise, quelle est son empreinte. Je vais vous donner un exemple, le secteur bancaire. On va prendre une banque. Une banque qui a des locaux éco-responsables et une politique de pas imprimer, c'est très bien. Mais en vrai, là où elle a un impact, c'est sur les investissements qu'elle fait. Donc, ce que vont regarder les candidats, c'est est-ce qu'il y a une politique RSE sur ces thématiques ? Est-ce qu'il y a des engagements ? Est-ce qu'il y a des labels aussi ? Ça fait partie des choses qui sont regardées. Est-ce qu'il y a une ambition ? Où est-ce que la RSE est positionnée dans l'organigramme ? Est-ce que ça dépend de la communication ? Est-ce que c'est au comité de direction ? Est-ce que le PDG est engagé ? Voilà, tout un tas d'éléments qui vont être scrutés vraiment par les candidats.
Enguerrand, du point de vue d'autres parties prenantes, vous avez cité tout à l'heure les clients, les fournisseurs, les investisseurs par exemple, est-ce qu'un désalignement entre ce qui est promu par une entreprise et ce qui est matériellement vérifiable, aujourd'hui, peut être un deal breaker ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous perdez la confiance de vos clients et de vos fournisseurs, vous avez moins de chances de réussir dans les affaires. Et c'est vrai que vos clients, ils vont faire très attention à la qualité de vos produits, à la façon dont ils sont fabriqués, au respect de l'environnement, l'empreinte que vous laissez dans le processus de fabrication et au niveau de l'approvisionnement. Vos fournisseurs, ils vont faire aussi très attention à la façon dont vous conduisez vos affaires, à la gouvernance, la façon dont vous êtes organisé, la transparence et aussi si vous êtes, on va dire, conforme, s'il y a une conformité dans la façon dont vous mettez en place l'ensemble de vos processus à l'achat et puis aussi vis-à-vis, bien sûr, de vos clients.
Caroline, on est à quelques jours de la journée des femmes, puisque cette émission est enregistrée fin février. Je suis obligée de poser la question, puisque ça va être le marronnier des prochaines semaines. On en est où de la mixité dans le RSE? Est-ce que l'égalité homme-femme est particulièrement un sujet inévitable aujourd'hui? Comment vous qualifieriez l'évolution depuis quelques années?
Alors, c'est effectivement un sujet absolument inévitable. C'est un sujet sur lequel il faut continuer à se battre. Je vais vous donner un exemple. On a constaté dans les conseils d'administration, on parle beaucoup de climat maintenant. Donc ça y est, le climat, on a compris. Et bien, ce qu'on a constaté, c'est que on parle davantage de climat, mais du coup, on parle moins de la mixité et du coup, ça baisse. Donc ça fait partie de ces sujets qu'il faut toujours mettre sur la table.
Est-ce qu'il y a des conséquences à négliger sa mixité, en particulier du point de vue des parties prenantes?
Il y a des conséquences très importantes. C'est du point de vue des investisseurs, ils ont une grille d'analyse avant de procéder à un investissement. Et on parlait du E pour l'environnement, mais au niveau du S et du G. La mixité au niveau des organes de direction des sociétés, c'est un critère qui est de plus en plus regardé. Ça veut dire que si vous n'y êtes pas, vous ne passez pas le processus de qualification pour l'investissement. Et puis au niveau des équipes, globalement aussi, c'est un critère qui est de plus en plus regardé. Et personne n'y échappe. C'est un courant extrêmement fort. Et comme vous l'évoquiez, même si récemment, voilà, le climat fait que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins regardé. Non, il y a une tendance de fond où les investisseurs et les différentes parties prenantes, pas uniquement les investisseurs, les employés, font extrêmement attention à ces thématiques de mixité et d'égalité aussi au niveau donc des traitements et au niveau des perspectives de carrière aussi. C'est ce que j'observe beaucoup chez nous, chez Kroll.
On parlait d'alignement. Finalement, la RSE aujourd'hui, ça s'inscrit dans un monde en quête de sens. La RSE, ça a l'air un peu d'être le dénominateur commun entre les entreprises et les salariés. On avance vers un projet. Quels sont vos conseils quand vous parlez à vos clients pour accoucher d'une politique RSE cohérente? Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des clients ou des prospects qui viennent vous voir en vous disant, voilà, on est zéro, on est au niveau zéro, par quoi je commence? Quel conseil on peut donner?
Alors, moi j'ai effectivement des clients qui arrivent et en toute humilité qui disent, nous sommes au niveau zéro et nous avons besoin de faire des choses. Donc moi, le premier conseil que je leur donne, c'est déjà quand même de faire une analyse de ce qu'ils font, parce que très souvent on se rend compte qu'il y a quand même des actions, soit sur la mixité, soit sur l'environnement, soit sur le développement local qui sont faits. Notamment parce que alors les grandes entreprises ont toutes, parce que c'est obligatoire, une politique RSE depuis longtemps. C'est quelque chose qui est plus récent pour un certain nombre de PME et d'ETI. Et souvent, elles ont un ancrage familial et ou local assez fort. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et puis après, c'est se rapprocher de leur fédération professionnelle pour voir les tendances de ce qui se fait et de se fixer un niveau d'ambition et de s'y tenir. On peut pas tout révolutionner du jour au lendemain et être parfait du jour au lendemain. C'est impossible. Donc, faut avoir une feuille de route et s'y tenir.
Enguerrand.
Alors, moi, je ne conseille pas les clients sur ces sujets-là, mais en tout cas, ce que je peux vous dire de ce que j'essaye de faire, ce qu'on a essayé de faire chez Kroll récemment, c'est de créer une fondation qui permet d'accompagner les financements de causes qui nous sont chères. Ça, c'est extrêmement important. d'avoir un impact positif au niveau des pays où nous sommes présents. Nous avons aussi créé un bureau à impact positif, des initiatives positives pour avoir aussi ces impacts dans les pays. Et puis nous avons mis en place en septembre dernier ce qu'on appelle un mois Crawl Care. Nous faisons attention. Nous avons demandé aux équipes d'avoir des actions, nettoyage des plages, initiatives. Et derrière, il y a eu du cofinancement par la société pour abonder un fonds destiné à soutenir un certain nombre d'œuvres. Donc ça, c'est ce que je peux observer et c'est ce qu'on essaye d'encourager parce que ce sont des thématiques qui sont extrêmement importantes, j'imagine, pour tous les employeurs.
Pour conclure, tous les deux, on parle beaucoup de greenwashing. Les candidats, notamment, ne sont pas dupes des entreprises qui mettent en avant des démarches ou une logique, disons, très écologique. Comment on fait pour, plus généralement, au-delà du green, ne pas faire du RSE washing sur les différentes lettres de l'acronyme RSE? Comment on fait pour être vrai et pour être dans la matérialité, pour reprendre votre expression tout à l'heure, Caroline, pour conclure?
Il faut se former et s'informer et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur ces thématiques parce que parfois c'est le greenwashing, c'est la plupart du temps pas fait exprès, pas voulu, c'est juste
souvent la maladresse, vous percevez?
C'est de la maladresse et il y a un manque d'information sur les sujets. Donc la sensibilisation, la formation est nécessaire pour tous les collaborateurs.
Enguerrand, la recommandation?
Avec les années qui viennent, on voit des années un petit peu plus faciles pour nous, puisqu'on va voir, il y a des directives, il y a des réglementations, oui. Il y a des critères,
il y a des tableaux de bord qui vont
pouvoir être monitorés. Il y a des sociétés qui vont venir contrôler tout ça, etc. Et donc, on va vraiment pouvoir parler de choses factuelles, auditables et traçables dans la durée. Et donc, je pense que ce sera tant mieux pour tout le monde.
Voilà, pour une fois qu'on accueille de manière enthousiaste un peu plus de réglementation. Et ben on va finir sur ce mot positif. Merci beaucoup à tous les deux, Enguerrand de Crémier, Managing Director chez Kroll, et Caroline Renoux, la tête du cabinet de chasse de tête Burdeo, et People for Impact. On va finir cette émission avec quelques recommandations pour éviter le burn-out. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
On va finir cette émission sur le burn-out. Mais vous allez voir, on a plein de solutions pour le prévenir, ce burn-out. C'est Imad Wakidi qui est avec moi. Bonjour Imad.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Olivia avec un H. On a fait un petit sondage pour préparer cette émission. J'ai demandé à notre communauté sur LinkedIn si vous pensiez avoir déjà été en burn-out. Et figurez-vous que 52% des gens qui ont voté m'ont répondu oui. 39% non et 9% non, mais pour bientôt. Bon, évidemment, c'est un échantillon assez peu représentatif, mais néanmoins, quels sont les chiffres dans la vraie vie du burn-out?
Tout à fait. Moi, je trouve qu'il est représentatif, en fait, ce chiffre, puisque à l'heure où on parle, en fait, un salarié sur deux s'est déclaré en détresse psychologique. Et aussi, aujourd'hui, en France, 2,5 millions de Français sont en situation de burn-out.
Avéré.
Donc, et en face, on a 85 000 DRH d'entreprises de taille intermédiaire ou grand compte qui sont démunis face à la situation avec des solutions existantes qui sont très peu utilisées, moins de 1% des collaborateurs, et souvent quand il est déjà trop tard.
Et ces 85 000 DRH, ils doivent gérer ou en tout cas être concernés par ces 2,5 millions de personnes en situation de burn-out. Pourquoi ? Parce que l'employeur, l'entreprise a cette responsabilité d'assurer la santé, la sécurité des salariés.
Tout à fait. L'entreprise a la responsabilité d'assurer la sécurité physique, mais aussi la sécurité psychologique des salariés. Et donc, il y a des actions à prendre par les DRH pour prévenir de façon positive, en fait, des situations de burn-out.
Alors, c'est vrai dans toutes les strates, entre guillemets, des travailleurs.
Oui.
Et c'est particulièrement vrai chez les managers. Presque un tiers des arrêts de travail des managers sont dus à des situations de souffrance psychologique. Un tiers des arrêts. Mais ça veut dire que
c'est
un coût pour notre sécu et puis pour nous tous.
Oui, ça a un coût qui est assez énorme en fait pour les entreprises, qui impacte leur performance. Aujourd'hui, un coût moyen du mal-être s'élève à 14 000 euros par an et par salarié.
C'est presque autant que l'aménagement du bureau.
Oui.
Avec un salarié, pour l'asseoir, l'éclairer, chauffer, le nourrir, etc., c'est 12 000 euros, je crois, par an.
En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en fait, pour prévenir ce burn-out. Et
Vous allez donner quelques conseils très pratico-pratiques. 5 ou 3 actions, avec le temps qui nous reste, pour améliorer la santé des collaborateurs. Qu'est-ce que vous nous diriez, votre top 3?
Tout à fait. Donc la première chose, c'est qu'il faut en parler. Donc sensibiliser les collaborateurs sur des sujets de santé mentale. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Olivia, en proposant des kits de communication, des ateliers collectifs, des webinaires mensuels. La deuxième chose, comme vous l'avez dit, outiller les managers. Ils sont au cœur de l'équation de la santé mentale et du bien-être des collaborateurs, avec des outils pour qu'ils puissent détecter, orienter et accompagner les collaborateurs. Et troisièmement, déployer des dispositifs d'accompagnement. C'est ce qu'on fait également chez Olivia. Par exemple, via une plateforme où chaque collaborateur peut trouver l'accompagnement dont il a besoin. Nous proposons par exemple un accompagnement avec des psychologues en visio sur la thématique qui concerne le collaborateur. Ça peut être la gestion du stress, l'amélioration de la confiance en soi, mais également des contenus pour se sensibiliser sur des sujets de santé mentale, que ce soit en audio, vidéo ou par écrit.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le coût du stress au travail, il est en hausse, hein, Amélie. Le chiffre entre 1,9 et 3 milliards d'euros. Plus de la moitié des Français qui éprouvent du stress. Est-ce que finalement, ce n'est pas les cordonniers les plus mal chaussés? Comment, quand on est manager stressé au bord du burn-out, on peut assurer sa fonction de manager et d'être capable, d'être en capacité d'identifier ses équipes, ses salariés qui sont pas bien? Mais aussi, peut-être son top management ou le management au-dessus qui n'est pas bien. Comment on fait quand on voit déjà soi-même pas très bien?
Tout à fait. La réponse, je pense qu'elle est assez simple. C'est qu'il faut prendre d'abord soin de soi-même avant de prendre soin des autres. Et je pense qu'il faut apprendre à justement détecter et s'auto-détecter justement dans des situations de difficulté. Et je pense qu'il y a des signes avant-coureurs, des signes forts des fois, et puis d'autres signaux qui sont plus faibles. Donc effectivement, tout ça s'apprend.
Est-ce que vous observez, Imad et votre équipe, une grosse différence entre les PME et les grands groupes, entre le moral des petites équipes et celle des grandes équipes?
On n'observe pas de différence. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner avec Olivia 15 000 collaborateurs en France auprès de grands groupes comme la SNCF, EDF, Vinci ou encore Air Liquide et d'autres plus petites structures, et on ne voit pas de différence au niveau de... C'est réellement un problème qui est global.
Sensibiliser et libérer la parole autour du burn-out et même avant le burn-out, avant ça, le stress. Le conseil pour conclure, la chose que vos clients, vos prospects ne vous posent pas, la question qu'ils ne vous posent pas et que vous aimeriez pouvoir dire à chacun?
Sensibiliser, parlez-en. Parlez de la santé mentale, parlez du problème. C'est ce qui va libérer la parole et permettre à chacun de s'autoriser, de prendre soin de soi-même.
Merci beaucoup Imad Wakidi, cofondateur d'Olivia. C'est la fin de cette émission. Je vous précise que tous nos épisodes sont à retrouver sur notre plateforme de vidéo à la demande, sur notre site, mais évidemment aussi sur notre application. Si vous êtes devant un écran, il y a un petit QR code qui s'affiche. Vous pouvez le flasher et retrouver directement la page avec tous nos épisodes. On est évidemment à la radio, à la télé tous les week-ends. Merci à toute l'équipe d'avoir rendu cette émission possible et je vous dis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.